Vous écoutez On lit pour vous.
Lecture du second texte du dossier du devoir du 11 mai 2026, titré « De la suite dans les idées et pensées dans un monde numérique ». Le titre de ce second texte, « La mort du texte ou vers une nouvelle oralité ». Texte signé Philippe Gendron-Turcotte, qui est doctorant en littérature à l'Université de Montréal et à Sorbonne Université. En sous-titre, devant l'inéluctable hégémonie des intelligences artificielles, la connaissance et la culture devront se tourner vers d'autres relais. De très vifs débats autour de l'émergence de technologies d'intelligence artificielle générative occupent une place essentielle dans le discours social d'aujourd'hui, sans pour autant que se réconcilient deux camps fermement opposés. Charmés par les héros de telle technologie, les uns prévoient une ère nouvelle placée sous l'empire de ces systèmes censés réfréner tous les maux. Les autres, plus sceptiques, se méfient de ce qu'ils considèrent comme une énième lubie de la Silicon Valley, incapable de tenir ses promesses, répétées à l'envi, d'un avenir universellement prospère. Malheureusement, cet antagonisme a pour effet d'escamoter de pressantes questions. Bien qu'il soit évident que le rêve prométhéen de voir naître une intelligence artificielle générale, à même de dépasser l'intelligence humaine, ne se réalisera pas de sitôt, force est de reconnaître qu'en à peine quelques années, les logiciels d'intelligence artificielle ont largement transformé le paysage du marché de l'emploi, bouleversé le monde des arts et, plus encore, celui de la recherche universitaire. Rares sont ceux qui ne sont pas touchés, de près ou de loin, par les contre-coups d'une révolution d'envergure dont le monde serait à la veille. Avant de supplanter définitivement l'humain, les systèmes doivent encore faire leurs preuves, et nombreux sont les obstacles à franchir. Dans « Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme », publié en 2023, Daniel Handler évoquait en cela une « dette théorique », entre guillemets, démontrer, sur le plan pratique, ce que l'intelligence artificielle pourrait, en théorie, accomplir à terme. Or, les nouveaux logiciels, mois après mois, s'en acquittent avec une efficacité étonnante et déconcertante. Selon de nombreux indicateurs, ils atteignent désormais des objectifs préalablement théorisés mais non vérifiés, aussi bien que des humains, sinon mieux. Pour s'en délester pleinement, il reste encore, bien sûr, à attester qu'ils seront un jour dotés d'une intelligence dite « humaine », entre guillemets, quelle que soit la définition que l'on en donne. Mais leur essor a de quoi fortement inquiéter. À court terme, presque tous les domaines qui reposent sur l'écriture seront profondément affectés. Des études affirment que, d'ici quelques années, près de 95% des tâches scripturales pourront être effectuées par des systèmes d'intelligence artificielle. Parce qu'elles sont intrinsèquement construites à partir d'une séquence lecture, réflexion, écriture, vérification, selon des chercheurs de semi-analysis, S majuscule M-E-M-I, A majuscule N-A-L-Y-S-I-S, toutes ces tâches sont donc reproductibles. Les logiciels de ChatGPT à Claude, en passant par Gemini, savent d'or et déjà programmer, voire écrire aussi bien que le font des humains, sinon mieux. Demain, l'écriture sera-t-elle chose morte? Pour qui estime son importance et pour qui valorise les arts textuels, l'intégrité journalistique, l'apprentissage par le texte et le bien écrire, cette perspective donne froid dans le dos. Un changement de paradigme nous guette qui risque de redéfinir notre rapport à l'écrit. Quelle valeur lui restera-t-il lorsque les machines se seront emparées des fonctions textuelles, hier dévolues aux humains? quelle confiance aurons-nous en ce qui relève de formes scripturales, romans et articles, documents et archives, si celles-ci sont, en quelques secondes, aisément reproductibles? Et quelles implications pour l'éducation entraînera ce monde où l'écriture et la connaissance sont automatisées, artificielles, entièrement numériques? Le temps le dira. Devant l'inéluctable hégémonie des technologies d'intelligence artificielle, la connaissance et la culture devront se tourner vers d'autres relais. Une culture nouvelle de l'oralité, une logosphère, pour reprendre le terme proposé par Régis Debré dans son cours de médiologie générale, publié en 1991, fera émerger de nouveaux modes d'échange, de transmission et de circulation discursive qui se grefferont inévitablement au réseau numérique. En cela, réfléchir à l'implantation de nouvelles technologies d'intelligence artificielle exige non pas de mesurer leur profitabilité ni leur capacité au regard du cerveau humain, mais plutôt d'envisager leurs effets potentiellement délétères sur le partage du savoir au cœur de toute vie culturelle branchée sur quelque forme de textualité. Évidemment, l'intelligence artificielle ne signe pas l'irréversible caducité du texte écrit, mais le drape d'un soupçon. Dans une constellation de domaines, à commencer par l'éducation, il retrouvera une position subalterne pour le meilleur et pour le pire. Aussi glauque ce constat puisse-t-il paraître, il en appelle à reconsidérer ce qui fait notre commune humanité, à prendre la mesure de l'importance des arts vivants et à réaffirmer notre présence au monde en dehors de notre seul rapport à la technologie, surtout lorsque celle-ci peut tout faire. Pour affronter les mutations de ce monde, l'éducation, et particulièrement l'éducation secondaire et supérieure, gagnera à remettre au cœur de ses chantiers l'importance d'une vie bonne, dans le respect de soi et de l'autre, de l'intersubjectivité, ainsi que la vertu du dialogue et de la délibération. Au contraire de l'écriture, tout ne peut pas être essentialisé, catégorisé, morcelé et reproduit. L'intelligence artificielle, dans son ultime forme, risque d'entraîner la mort du texte et de brouiller du même coup nos repères de communication, de transmission et d'échange. Mais son avènement nous pose aussi à revenir vers des pratiques communautaires et éducatives qui donnent sens au vivre ensemble, d'y reconnaître l'essence de notre vie sociale et culturelle. Fin de ce texte titré « La mort du texte ou vers une nouvelle culture de l'oralité » signé Philippe Gendron-Turcotte et publié dans Le Devoir du 11 mai 2026 sous le titre du dossier « De la suite dans les idées, pensées dans un monde numérique ».
Non, la migraine n'est pas un simple mal de tête. Et voici pourquoi un texte de Marie-Hélène Jean, publié le 7 juin 2026 dans La Voix de l'Est. Le défi en migraine, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a un diagnostic. Beaucoup de gens vont vivre avec la migraine sans le savoir ou sans nécessairement aller chercher un diagnostic, explique Véronique Clément, directrice générale de Migraine Québec. Si certaines personnes font des crises épisodiques de temps en temps, d'autres doivent plutôt composer avec la migraine chronique, avec des crises pouvant survenir sur une base quotidienne. Il y a un gros spectre en migraine, précise-t-elle. Les données révèlent également que la migraine est surtout prévalente chez les femmes en plein âge actif, à raison de 3 femmes pour un homme. Entre 30 et 49 ans, c'est vraiment là qu'on voit le pic de migraine. Perçue à tort comme un simple mal de tête, la migraine est source de stigmatisation, ce qui constitue encore aujourd'hui un gros enjeu pour l'organisme qui accompagne les personnes migraineuses. Véronique Clément souligne que la culture populaire contribue, dans une certaine mesure, à alimenter les idées préconçues en présentant, par exemple, des personnages féminins déclinant les relations intimes en disant « Pas ce soir, j'ai mal à la tête, je fais une migraine », associant même la migraine à une forme de faiblesse. C'est malheureux, parce que le mal de tête, c'est un symptôme de la migraine. Mais la migraine, c'est vraiment une maladie neurologique qui va au-delà d'un mal de tête. C'est vraiment une maladie inflammatoire qui entraîne aussi beaucoup d'autres symptômes. Chez certaines personnes, la migraine peut être particulièrement invalidante, provoquant notamment des vomissements, des nausées, des vertiges ou encore un brouillard mental. Selon elle, la perception la plus tenace concernant la migraine est justement de croire qu'elle est un simple mal de tête qu'un comprimé de Tylenol suffira à faire passer. Pour illustrer son propos, elle fait un parallèle avec une crise d'asthme, durant laquelle il ne viendrait à personne l'idée de conseiller de prendre une grande respiration en croisant les doigts pour que la crise passe d'elle-même. On va s'attendre à ce qu'elle prenne sa pompe. On va lui dire de prendre le temps, d'aller se reposer, de s'asseoir, d'aller respirer. Dans bien des cas, les crises de migraine, un mal invisible et méconnu, susciteraient moins d'empathie et d'incompréhension. Les gens vont dire « Bon, elle a encore mal à la tête », plutôt que de lui proposer d'aller se reposer. Comme elle affecte majoritairement les gens en âge actif, la migraine serait la première cause d'absentéisme au travail chez les moins de 50 ans. Selon les données dont dispose Migraine Québec, les coûts de ces absences avoisinent les 980 millions de dollars au Canada. Fait encore plus surprenant, ces montants ne représenteraient que 30 % des sommes réelles. Le plus gros coût, c'est le présentéisme. Être au travail en crise de migraine, ça signifie d'être vraiment moins productif. Ça, c'est très dur à chiffrer, parce que, évidemment, les gens ne le disent pas. Elle explique que, dans un milieu de travail, près de 60 % ignorent qu'ils vivent avec la migraine. Comme celle-ci a longtemps été banalisée, de nombreux travailleurs se rendent à leur emploi en endurant la douleur, un cercle vicieux qui amène des comorbidités, la principale étant les enjeux de santé mentale, dont la dépression. Véronique Clément insiste sur l'importance de consulter afin de permettre une meilleure prise en charge et d'éviter que la migraine ne se chronicise. Elle parle aussi de l'importance pour les personnes migraineuses de s'intéresser à la maladie pour en comprendre les déclencheurs et agir à temps. Ce n'est pas normal d'avoir mal à la tête plusieurs fois par mois ou pendant plusieurs jours, puis que ça revienne régulièrement. Outre ces manifestations physiques, la migraine entraînerait aussi des conséquences néfastes et silencieuses sur le plan affectif, générant notamment de la culpabilité, de la honte, ainsi que la peur d'être jugée ou discriminée. Certaines personnes éviteraient même de parler ouvertement de leurs conditions, craignant d'être perçues comme moins performantes ou de fermer la porte à des opportunités professionnelles. Pour mieux soutenir les personnes vivant avec la migraine, Véronique Clément met de l'avant l'importance d'adapter l'environnement de travail afin de réduire les déclencheurs. La migraine, le déclencheur, c'est la lumière, c'est les odeurs, c'est le bruit. Donc, de créer des environnements exempts le plus possible de tout ça. Les rassemblements familiaux, les fêtes et les événements sociaux peuvent généralement être une source d'anxiété pour les personnes migraineuses qui craignent le déclenchement d'une crise. L'attitude bienveillante de l'entourage contribue à réduire cette pression. Madame Clément évoque aussi le rôle des proches aidants auxquels on pense peu. Comme la migraine est une maladie chronique qui s'étend sur plusieurs décennies, les proches vivent eux aussi avec l'incertitude de devoir s'adapter aux crises. Ça prend un gros réseau. Le conjoint, les familles sont très sollicitées dans ce temps-là, conclut la directrice générale de Migraine Québec. Journaliste de formation, Marie-Hélène Jean cumule depuis 2009 des expériences variées en rédaction et en communication. Curieuse et rigoureuse, elle s'intéresse avant tout à ce qui relie les gens et éclaire la compréhension du monde. Elle fait partie de l'équipe de la rédaction du Quotidien depuis 2025. C'était « Non, la migraine n'est pas un simple mal de tête et voici pourquoi » un texte de Marie-Hélène Jean, publié le 7 juin 2026 dans La Voix de l'Est.
Séquence boréale. Girl, un film plein de grâce sur l'identité sexuelle. Un texte de Marion Perrin, paru le 7 juin 2026 dans L'Aquilon. Je vous propose de découvrir Girl, un film belge réalisé par Lucas Don. Le long métrage suit Lara, une adolescente transgenre qui rêve depuis l'enfance de devenir danseuse étoile. Entre sa transition de genre et les exigences de la danse classique, elle tente de devenir la personne qu'elle aspire à être. Premier film du réalisateur belge Lucas Don, Girl suit Lara, une adolescente transgenre qui rêve de devenir danseuse étoile. Portée par l'interprétation remarquable de Victor Polster, danseur classique, le film a été récompensé par la caméra d'or du premier film au Festival de Cannes de 2018. À travers le quotidien de son héroïne, il explore avec une grande intimité plusieurs épreuves qui façonnent son existence. La construction de son identité de genre, les exigences et les sacrifices de la danse classique et les bouleversements propres à l'adolescence. Lara est une adolescente transgenre de 15 ans qui rêve depuis l'enfance de devenir danseuse étoile. Alors qu'elle poursuit sa transition de genre avec le soutien inconditionnel de son père et de son équipe médicale, elle intègre une prestigieuse école de danse afin de se rapprocher de son objectif. Cependant, les exigences extrêmes de cette discipline mettent son corps à rude épreuve. Entre les entraînements intensifs, les sacrifices quotidiens et les standards de grâce et de souplesse imposés aux ballerines, Lara peine à faire coïncider ses ambitions avec les limites physiques auxquelles elle se heurte. À mesure que la pression s'intensifie, son quotidien et le regard des autres deviennent de plus en plus difficiles à supporter. Bien que Lara puisse compter sur le soutien indéfectible de sa famille tout au long du film, cela ne suffit pas à atténuer la souffrance qu'elle ressent au quotidien. Entourée par un père aimant et des médecins à l'écoute, elle reste confrontée au regard extrêmement cruel des autres adolescents, de leurs parents et de professeurs mal formés qui lui rappellent constamment qu'elle est différente. Sa souffrance est également présente dans ce sentiment de vivre dans un corps qui ne correspond pas à son identité et qui lui est insupportable à regarder dans un miroir. Lucas Don filme avec beaucoup de pudeur cette fragilité physique et psychologique amplifiée par la rigueur de la danse classique. Lara poursuit alors deux rêves qui semblent se rejoindre, devenir danseuse étoile et devenir la femme qu'elle aspire à être. Grâce à une mise en scène sobre et brute, ainsi qu'à l'interprétation remarquable de Victor Polster, Girl dépasse le simple récit de transition de genre pour devenir le portrait bouleversant d'une adolescente en quête d'identité. C'était Séquence boréale, Girl, un film plein de grâce sur l'identité sexuelle. Un texte de Marion Perrin, paru le 7 juin 2026 dans L'Aquilon.
Décarboner le bâtiment passera par une approche plus contraignante. Un texte d'Alexis Riopel, paru le 8 juin 2026 dans Le Devoir. Pour décarboner le secteur du bâtiment, les mesures incitatives, comme les aides financières, ne suffisent pas. Une approche plus contraignante est donc essentielle, affirme le Comité consultatif sur les changements climatiques dans un nouvel avis présenté au gouvernement du Québec lundi le 8 juin 2026. Cotation carbone, normes de construction rehaussées, obligations de performance énergétique, tarification dynamique de l'électricité, interdiction des nouveaux raccordements au réseau gazier. Le comité d'experts donne plusieurs prescriptions pour réduire les émissions du secteur du bâtiment. Les émissions directes des immeubles imputables à l'usage de gaz naturel et de mazout représentent 8 % des gaz à effet de serre québécois. À cela s'ajoute le carbone intrinsèque des bâtiments associé aux matériaux et aux pratiques de construction. Le Québec doit s'attaquer à ce problème écologique même si les coûts pour se loger explosent et que les habitations manquent, affirme Alain Webster, le président du Comité consultatif sur les changements climatiques, dans une entrevue accordée quelques jours avant la présentation de l'avis de 100 pages qui compte 14 recommandations. Mais cela ne veut pas dire que le chantier climatique va hausser les coûts de logement. En fait, il s'agit plutôt d'une occasion à saisir pour mieux s'en tirer sur les deux tableaux, souligne M. Webster, un économiste de l'environnement à l'Université de Sherbrooke. Avec une meilleure maîtrise de l'énergie, les gens obtiendront des gains individuels sur leurs coûts de chauffage et en même temps, on réalisera des gains collectifs en évitant de surdimensionner notre production d'énergie renouvelable, promet-il. Au Québec, la vaste majorité des résidences sont chauffées à l'électricité, ce qui ne pollue pas. Il est néanmoins crucial de réduire le gaspillage pour consacrer cette électricité à d'autres secteurs. Globalement, la moitié de l'énergie consommée au Québec est d'origine fossile. Non seulement les appareils de chauffage efficaces comme les thermopompes sont rares, mais de manière générale, la qualité de l'isolation et de l'étanchéité des bâtiments laisse à désirer. Il faut arrêter de chauffer dehors, résume José Provençal, une professionnelle de recherche du comité. Les programmes de rénovation éco-énergétique, chauffer vert, nouveau climat, rénoclimat, logiver, etc., ont un effet positif, mais ils n'ont pas engendré de transformation systémique du parc immobilier, souligne le comité qui appelle donc à une action plus musclée. Les 13 experts indépendants voient d'un bon œil la déclaration obligatoire des données énergétiques des grands bâtiments, prévue dès 2027, en vertu d'un règlement, pas encore adopté, issue de la nouvelle loi sur la performance environnementale des bâtiments. Il recommande d'élargir la mesure au secteur résidentiel d'ici 2030. « Il faut arrêter de chauffer dehors », s'exclame José Provençal. Ce cadre réglementaire met la table pour un système de cotation où les bâtiments les moins efficaces se voient imposer des obligations de performance avec pénalité. Le comité suggère d'y assujettir également le carbone intrinsèque des bâtiments, un angle mort des règles actuelles. Il recommande aussi de rendre obligatoire d'ici 2030 les systèmes de tarification dynamique de l'électricité, comme ILO, dans le secteur résidentiel. Il se montre par ailleurs favorable au soutien par l'État de l'énergie solaire et des batteries de stockage à domicile. Au Québec, environ 200 000 bâtiments sont chauffés au gaz naturel, ce qui représente 15 % du parc immobilier. Le comité recommande d'interdire, sauf exception, le raccordement des nouveaux bâtiments au réseau gazier dès 2026, comme c'est déjà le cas à Montréal et à Prévost. Cette restriction vaut également pour le gaz de source renouvelable, GSR, qui devrait être réservé en priorité au secteur agricole et industriel, où l'électrification directe est techniquement plus difficile. L'approche actuelle du gouvernement est plutôt favorable au GSR dans les résidences. En général, la décarbonation du secteur du bâtiment passera beaucoup par la sobriété. Préserver les bâtiments existants doit primer la démolition et la reconstruction. Favoriser les habitations de taille modeste est un autre levier, sachant que, dans les dernières décennies, les maisons sont devenues de plus en plus grandes et les ménages qui les occupent de plus en plus petits. Le comité relève finalement que le parc immobilier du Québec a été construit pour un climat du 20e siècle. Il est donc urgent d'adapter les normes et les codes de construction aux aléas météorologiques actuels et futurs. Inondations, canicules, grands vents, cycles gel-dégel, précipitations extrêmes. Créé en 2021 par le gouvernement de François Legault, le Comité consultatif sur les changements climatiques est un organisme indépendant qui a pour mandat de conseiller le ministre de l'Environnement sur les questions climatiques dans l'idée d'accélérer la transition. C'était « Décarboner le bâtiment passera par une approche plus contraignante », un texte d'Alexis Riopel paru le 8 juin 2026 dans Le Devoir.